Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui
à une étude, une analyse des racines historiques du national-socialisme à partir notamment de deux ouvrages, donc le classique de George Moss, un ouvrage donc publié une première fois en 1964 et qui s'intitule Les racines intellectuelles du Troisième Reich, la crise de l'idéologie allemande et qui a été republié aux éditions Point en 2006, et on va également parler, alors là pour le coup, plus pour la deuxième partie de l'émission, d'un numéro de la revue d'histoire de la Shoah, Les racines intellectuelles de Mein Kampf, qui traite
des influences idéologiques de Hitler, quoi, essentiellement. Quoi. Certaines parties se recoupent avec l'analyse de Moss, quoi.
Voilà, et justement, donc, pour cette émission, donc, nous sommes avec Paul, de la critique de la valeur, et avec qui on a déjà fait des émissions autour de la question de la destruction des Juifs d'Europe et des débats historiographiques sur cette destruction des Juifs d'Europe, donc qui s'est opérée entre 1933 et 1945 sous l'égide du national-socialisme. Et dans cette émission, qui est donc complémentaire, on cherche à comprendre quelles sont voilà, les racines historiques du national-socialisme avant même son accession au pouvoir, puisque aujourd'hui, on va couvrir une période qui va du 19e siècle, globalement, à peu près du milieu du 19e siècle, jusqu'à la publication de Mein Kampf en 1925. Et dans une autre émission, on traitera vraiment de l'ascension électorale du nazisme, de sa constitution d'un parti de masse, puisqu'en 1925, le parti nazi est à peu près quantité insignifiante. Mais il s'agit dans cette émission de comprendre qu'est-ce qui, au-delà de la conjoncture des années 1920-1930, la défaite de 1918, l'hyperinflation, la République de Weimar, la Révolution allemande de 1918, la menace révolutionnaire en Allemagne présente de à peu près de 1918 à 1923, la crise de 1929, donc tous ces événements économiques, sociaux, politiques qui vont permettre l'accession au pouvoir du nazisme, au-delà de ça, il y a un fond idéologique qui va se mettre en place au cours du 19e siècle et qui va progressivement être diffusé dans la population, c'est ce que raconte George Moss, et qui va finalement être un peu la condition idéologique, la précondition idéologique, entre guillemets, de l'adhésion d'une partie relativement importante de la population allemande au national-socialisme, ce qui va permettre au national-socialisme ensuite de se lancer dans des processus impérialistes, de destruction de la classe ouvrière, de destruction de la démocratie, même bourgeoise, même parlementaire, et évidemment la destruction des Juifs d'Europe.
Un des points de départ pourrait par exemple être la question, souvent on dit « oui mais la France était plus antisémite en 1900 que l'Allemagne ». Et si on regarde probablement les faits juste après l'affaire Dreyfus, on pourrait effectivement penser ça. Et malgré ça, c'est quand même en Allemagne qu'on a trouvé une adhésion très large à l'antisémitisme et à l'antisémitisme éliminatoire. Donc voilà, du coup, c'est intéressant de revenir en arrière pour essayer de comprendre quel est le soubassement de l'antisémitisme allemand et de l'idée de la nation allemande, qui fait qu'effectivement, la conjoncture politique autour de l'affaire Dreyfus était plus virulente qu'à ce moment-là en Allemagne. Mais malgré ça, c'est quand même en Allemagne, il y a quand même quelque chose de particulier dans ouais, bon, on en parlera, mais surtout dans l'idée de ce que c'est la nation et le peuple.
Oui, justement, un des objectifs de cette émission, c'est aussi de réfléchir à une vieille question en histoire, qui est celle de la Sonderweg, je prononce très mal probablement, mais cette idée qu'il y aurait une trajectoire spécifique de l'Allemagne à partir du 19e siècle, qui aurait conduit de manière plus ou moins logique, linéaire, nécessaire, au national-socialisme. Donc il y a tout un tas de débats historiographiques, des gens qui, comme Goldhagen, qui définissent vraiment l'idée que l'Allemagne a vraiment une place exceptionnelle dans l'histoire de la modernité et que c'est cette trajectoire exceptionnelle avec des caractéristiques très particulières qui explique voilà, le national-socialisme, son arrivée au pouvoir et la destruction des Juifs d'Europe. Et puis d'autre part, dans l'historiographie plus récente, il y a eu des tendances, par exemple comme chez Oded Heilbronner, qui pense plutôt qu'en réalité, cette spécificité allemande, elle se serait faite plutôt à partir de la défaite de 1918, et qu'en réalité, l'antisémitisme n'aurait pas joué un rôle si important que ça dans l'ascension au pouvoir du nazisme, et que jusqu'en 1932... les choses auraient pu évoluer notamment. Donc on voit qu'il y a quand même des positions assez antagonistes, hein. C'est-à-dire d'une part Goldhagen qui dit que le national-socialisme était presque inscrit dans l'histoire allemande depuis le Moyen-Âge, et puis d'autre part des historiens qui relativisent extrêmement fortement cette spécificité allemande. Donc bon, on va essayer de trouver une voie
un chemin médiane, ouais.
Voilà, c'est ça, dans cette émission, notamment dans une perspective un peu de comparaison. On va parler du coup beaucoup d'idéologie, en fait, de l'idéologie Völkisch et aussi de voilà, tout ce qui a pu influencer l'idéologie antisémite allemande, l'idéologie nationaliste, raciste, à partir du 19e siècle. Et puis on finira voilà, sur la question sur les racines un peu plus qui datent plutôt du 20e siècle, de Mein Kampf, avec les protocoles des sages de Sion, les écrits de Gottfried Feder. L'influence de Wagner et du cercle de Bayreuth, etc. Alors, peut-être pour commencer, on peut d'abord tenter de définir ce que c'est que l'idéologie Völkisch, qui est quand même un point de départ, je pense, important, pour comprendre ce qui est peut-être pas exceptionnel, mais qui est spécifique quand même à l'Allemagne, c'est-à-dire que des idéologies nationalistes, il y en a aussi en France, en Espagne, partout, mais il y a quand même une spécificité allemande à cette idéologie nationaliste.
Ce qu'on voit d'ailleurs dans la traduction, dans le terme, on utilise en français le terme allemand, Völkisch, qui vient du folk, donc du peuple, mais personne traduirait ça en français en disant on parle de l'idéologie du peuple ou de quelque chose comme ça, parce que ça serait totalement mal compris. Parce que justement, il y a une notion du peuple en Allemagne qui est, et du nationalisme, qui est quelque chose quand même un petit peu différent d'en France, quoi. On peut l'attacher au symbole du droit du sol et du droit du sang, qui est pas seulement un symbole, mais qui est la pratique judiciaire, mais qui traduit quelque chose de plus profond. Effectivement, l'idée, après la Révolution française, on pouvait adhérer, de pouvoir adhérer à la République. Et si on adhère à ces principes, on peut devenir aussi, on peut le devenir. Alors que dans le nationalisme allemand, on ne peut pas devenir allemand. On l'est ou on ne l'est pas. Et quand on l'est, c'est une espèce de chose profonde et mystifiée beaucoup aussi. Mais on ne peut pas adhérer à ça. Du coup, aussi, ça prête évidemment le chemin pour aller vers des idées eugénistes, scientistes, quoi, aussi. Donc de considérer ça comme être dans le sang, quelque part dans le corps, dans l'âme ou dans le corps, quoi. Il y a vraiment cette idée du sang et du sol allemand, quoi. Quand même lié à la géographie aussi. Mais après, il y a plein d'exemples historiques. Les Allemands qui ont vécu 10 siècles en Roumanie sont restés allemands pour les Allemands. Et en 1989, après la chute du mur, ils ont eu un passeport allemand, alors que les autres Roumains n'avaient pas la possibilité de voyager. Eux, ils pouvaient tout de suite retourner en Allemagne. Parce qu'il y a cette idée que même 25 générations plus tard, si les parents étaient allemands, ben les enfants sont allemands aussi. Et on le voit dans le contraire, les Turcs aujourd'hui en Allemagne, les Turcs de troisième génération sont toujours Turcs. On ne devient pas allemand. Maintenant, ça s'est un tout petit peu assoupli depuis une dizaine d'années, après le gouvernement Schröder Fischer, ils ont un petit peu assoupli l'accession à la nationalité, mais fondamentalement, et ça forme un autre concept de la nation, parce qu'il y a du coup, il y a des corps étrangers, tu peux être là, tu peux adhérer à tout, tu peux travailler comme un Allemand, si on veut prendre ça comme une des valeurs les plus sublimes dans l'idéologie de l'Allemagne d'aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que tu peux être Allemand, c'est une conception de la nation qui est différente.
Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on ne peut pas faire une opposition entre qui est parfois faite, je pense, abusivement entre une espèce de bon nationalisme français qui serait inclusif parce qu'en vrai, si on regarde les différentes lois de nationalité, certes, elles sont beaucoup plus généreuses qu'en Allemagne, elles sont basées sur le droit du sol, mais il y a des gens qui n'ont jamais pu devenir français. Donc en gros, pour devenir français, globalement, jusqu'à une période assez tardive, il faut être blanc. Voilà. Donc jusqu'à 1945, en gros, il faut être blanc, européen. Donc, bon, c'est une générosité déjà assez limitée quand même. Donc c'est lié à l'héritage de la Révolution française, ça c'est sûr. Mais après, il y a eu des moments aussi de xénophobie très forte dans la Révolution française, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une naturalisation très facile les premières années, et à partir du moment où ça a été la guerre généralisée contre l'Europe, là il y a eu des vagues de xénophobie, il y a eu des gens qui ont été accusés d'être du parti de l'étranger... Et puis, il y a une histoire de la xénophobie en France très forte, hein, comme l'a montré par exemple Gérard Noiriel dans tous ses travaux sur le 19e siècle et le 20e siècle en France. Après, ceci dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des lois de naturalisation, particulièrement à partir de 1889 et en 1927, qui permettaient à des gens européens, s'entend, de devenir de manière relativement facile français, pour des raisons en fait, principalement démographiques. C'est que la France... a commencé un déclin de la natalité beaucoup plus tôt que les autres pays, à partir du milieu du 19e siècle. Et donc, bon, pour des raisons militaires particulièrement, comme la population est un facteur très important des États modernes qui repose sur la conscription de masse, c'est sûr qu'en France, il y a eu des conceptions effectivement plus ouvertes de la nationalité, mais vis-à-vis des Européens. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cas allemand, c'est que même vis-à-vis des autres Européens, voilà, il n'y a jamais eu cette ouverture, et aussi, bon, un autre facteur, je pense, important, c'est le fait que ça n'a jamais été trop un pays d'immigration, ou en tout cas un pays d'immigration assumé, c'est-à-dire voulu. Il n'y a jamais eu de politique d'immigration particulièrement accueillante, on va dire, vis-à-vis des immigrés. Et après, peut-être un dernier aspect, et là on arrive vraiment sur l'idéologie Völkisch, je pense, c'est que l'unification française n'a pas été un problème. Enfin... Si, elle a été un problème dans le sens où ça a été un processus de nationalisation des sociétés, comme le dit Gérard Noiriel, qui a pu être violent, notamment dans tous les périphéries de la France, comme l'Ariège, la Corse.
Dans la création de la langue, par exemple, l'unification de la langue française, je dirais, a été faite par l'interdiction de langue régionale.
Et puis il y a aussi, par exemple, en Ariège, l'État français s'est approprié les forêts, ce qui a entraîné une espèce de guerre de basse intensité qu'on a appelée la guerre des demoiselles. Donc évidemment, il ne s'agit pas de dire que le processus de centralisation, de nationalisation des sociétés qui aujourd'hui composent la France métropolitaine s'est fait tranquillement. Mais c'est vrai que la différence avec l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu, du point de vue des nationalistes français, de frustration, de... unification qui arriverait trop tard ou qui se ferait pas complètement. Alors que une des racines de l'idéologie Völkisch, qui prend, je pense, on peut dire, ses racines, bon, un petit peu dans le romantisme allemand de la fin du XVIIIe siècle, l'idée que finalement il y aurait quand même une espèce de communauté linguistique allemande, donc c'est quelqu'un comme Herder qui du coup développe un petit peu cette idée. Et puis il va y avoir, donc ça, Mauss en parle, les frustrations qui résultent des suites de ce que. On a appelé, je pense rétrospectivement, la guerre de libération nationale allemande, donc contre l'occupation napoléonienne, de 1813 à 1815, et qui aboutit donc au congrès de Vienne, qui ne donne pas, qui est loin de donner à l'Allemagne une unité qu'auraient souhaité ces nationalistes qui avaient forgé leur nationalisme contre l'occupation napoléonienne, en référence notamment au Saint-Empire romain germanique, qui avait été aboli par Napoléon en 1806. Eh bien, il y a eu une frustration que le congrès de Vienne, finalement, morcelle l'Allemagne, la découpe entre la Prusse, l'Autriche, et voilà, tout un morcellement de petits États, catholiques, protestants. Et c'est vrai que c'est à partir de là qu'il commence à y avoir une conception de la nation qui est aussi liée à ces circonstances, qui est que, comme cette nation, elle n'existe pas politiquement. La nation française, elle existe politiquement. Il n'y a pas besoin de postuler son existence. On peut évidemment la légitimer, la renforcer par des mythes, nos ancêtres les Gaulois, etc. Mais la nation allemande, elle n'existe pas politiquement. Donc, pour la faire exister, eh bien, les idéologues Völkisch vont se référer non pas aux Allemands comme une espèce de communauté imaginaire, pour reprendre les mots de Benedict Anderson, une communauté imaginaire fondée sur une conception mystique de la nation. Alors au début, qui n'est pas raciale, ce qui est intéressant, c'est que ça devient racial ensuite, mais cette idée que finalement, il y aurait une unité spirituelle et mystique des Allemands, une unité qui serait liée notamment au fait qu'ils sont inscrits dans un certain paysage. Et c'est là où on voit les liens avec le romantisme allemand, c'est-à-dire que les Allemands sont définis par une communauté spirituelle et mystique en lien avec une nature qui serait elle-même allemande.
Voilà. Oui, il y a une grande accent mis sur la nature, sur la forêt, la plaine, le brouillard, et qu'on va retrouver dans la musique de Wagner, que tu vas retrouver dans le romantisme, et dans les auteurs romantiques, dans la littérature, et tout ça, et qui est très important. L'idéologie Völkisch est très liée à la terre, quoi. Il y a cette expression, le Blut und Boden, quoi. C'est le sang et la terre, quoi. Ce sont les fondements de cette idéologie-là, quoi. Et avec une idée qu'il y aurait quelque part un peuple originel, quoi. Là, du coup, ils vont se sortir toutes ces histoires sur les Aryens. Quand on découvre les parallèles avec le sanskrit, langue qui vient de l'Inde, et donc on va parler des Aryens comme étant le peuple originaire de tout ça, qui est de la mythologie. Il n'y a pas un foyer originaire d'où tout ça est né, quoi. Mais qui est très important dans l'idéologie Völkisch, quoi.
Oui, c'est vrai, il y a cette idée des origines, je pense, qui est liée au fait que voilà, c'est un nationalisme contrarié, donc on va chercher la référence dans un passé originel où là, effectivement, cette communauté pouvait exister. Alors, donc, effectivement, on va remonter aux Aryens, donc qui seraient soi-disant un peuple originaire de l'Inde.
En Allemagne, on ne dit pas indo-européen, on ne parle pas des langues indo-européennes, on parle des langues indo-germaniques. Et en Europe, on parle des langues indo-européennes.
Oui, c'est ça.
Mais c'est assez drôle, ce petit truc de traduction. En allemand, c'est la langue indo-germanique.
Et puis après, il y a évidemment les Germains. Voilà. Donc il y a toute une réappropriation par les idéologues Völkisch à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, du livre de Tacite. Évidemment, c'est complètement décontextualisé parce que Tacite, comme l'explique Mauss, il écrit ce livre où il décrit soi-disant les Germains. En fait, c'est pour faire une critique de Rome. Donc c'est de la propagande en fait. C'est pour critiquer la décadence soi-disant des Romains qui seraient plus assez virils, etc., etc. Et donc, lui, il va aller chercher... C'est une critique récurrente, hein, on va chercher un autre peuple dont on loue les qualités viriles contre l'effémination, la décadence, etc., etc. Et donc, les idéologues Völkisch vont prendre ça pour argent comptant et vont s'imaginer les Germains comme un peuple basé sur des clans, sur une homosociabilité virile. C'est un peuple de guerriers aussi, donc qui est enraciné aussi dans une terre, donc il y a un peu cet imaginaire du paysan et du guerrier, en fait, qui sont vraiment des figures centrales de l'idéologie Völkisch et qui, finalement, fondent à la fois l'idée que la nation allemande, elle est fondée sur un sol, sur une population en lien avec un sol particulier, avec une nature particulière, et en même temps, fondée sur des valeurs particulières, guerrières, et puis aussi des croyances spirituelles. Donc là, il va y avoir la redécouverte du soi-disant culte du soleil, il va y avoir une apologie du paganisme.
Oui, on va voir ça assez fortement, ça va traverser, ça va continuer jusque dans le nazisme, quoi. On le dit surtout pour Himmler, qui apparemment était très très spiritualiste, quoi. Pour les SS, ils avaient imaginé faire leur culte dans un château, une forme particulière, donc tous les liens à la vénération du soleil, du solstice et toutes ces choses-là, quoi. Et qui cherchent en fait une religion antérieure au christianisme. Donc ça, c'est l'idée de revenir encore une fois à cette idée d'un peuple originel, une langue originelle, et du coup aussi une religion qui serait antérieure. Le christianisme serait déjà un petit peu judifié et du coup déjà pourri. Et donc, il faudrait revenir à une religiosité antérieure, mais qui aussi est liée à la nature. Ça aussi, je pense, c'est très important. Parce qu'il y a, dans l'idéologie Völkisch et nazie aussi, ensuite, il y a une exaltation de la nature, quoi. Et bon, probablement plus généralement, ça c'est pas seulement une spécificité allemande, mais une particularité genre de deuxième moitié 19e siècle de faire des parallèles entre le corps social et la biologie, quoi. C'est-à-dire de considérer la société comme un arbre avec les branches pourries qu'il faut couper, qu'il faut se séparer. Beaucoup de métaphores qui viennent de la biologie. Et ça va beaucoup se poursuivre dans le nazisme, quoi. Avec la vermine, le juif comme parasite, du corps sain, toutes ces idées-là.
Je pense qu'on peut dire que c'est pas spécifique à l'idéologie völkisch, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce rapport à la nature, il est quand même distinct du rapport à la nature des autres nationalismes. Je pense notamment par le fait que, jusqu'en 1871 notamment, mais même au-delà d'une certaine manière, tant qu'il n'y a pas d'unification politique de l'Allemagne, forcément, la référence à la nature joue un rôle plus important dans le nationalisme français. Bien sûr qu'il y a cette référence, chez Barrès, la terre de nos ancêtres, le culte des morts, la terre ne ment pas, le fameux mot du maréchal Pétain. Voilà l'exaltation de la paysannerie, comme enracinée, le côté un peu anti-urbain, notamment, de l'idéologie völkisch. On le retrouve un petit peu dans l'idéologie de la Révolution nationale en France, et plus généralement de l'extrême droite, mais c'est sûr que ce rapport à la nature, même si on le retrouve dans tous les nationalismes, on le retrouve aussi dans le nationalisme états-unien, avec cette idée de la wilderness, de la nature sauvage, qui serait définitoire de l'identité états-unienne. Ce qu'il y a de particulier, peut-être, dans le nationalisme allemand, c'est que, jusqu'en 1871, forcément, ce rapport à la nature, il joue plus fortement, proportionnellement, parce que en fait, il n'y a pas d'entité politique qui permette de définir ce que c'est que l'Allemagne. Donc c'est sûr que cette idée d'une nature allemande, d'une communauté mystique allemande, elle joue forcément un rôle plus important. Et après, je pense qu'elle joue aussi un rôle plus important dans l'histoire allemande parce qu'elle va prendre le pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'elle est déjà au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça a quand même une influence relative, alors qui est principalement littéraire, en fait. Voilà, même quasi exclusivement, c'est des romans, völkisch qui exaltent la paysannerie, qui sont antisémites, on va y venir, qui exaltent voilà, le paysan enraciné, un paysan rude, dur, donc qui rappelle la vigueur, la force des guerriers germains.
Mais avec des grandes, grandes publications. En tout cas, moi, je suis souvent surpris aujourd'hui quand tu lis le nombre de tirages de ce genre de publications dans ces périodes-là. C'était beaucoup lu, quoi.
Ouais, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Ouais, c'est très important, ouais. C'est une influence principalement intellectuelle jusqu'à l'unification allemande. Mais malgré tout, ça participe, ça crée quand même une atmosphère culturelle qui fait que ce genre d'idée va commencer à se diffuser dans la paysannerie, la petite bourgeoisie, moins dans les milieux ouvriers, parce que bon, les milieux ouvriers, l'exaltation de la paysannerie,
ça ne parle pas trop. Et dans l'élite, quoi.
Et dans l'élite,
évidemment. C'est quand même un mouvement un peu élitiste, quoi, le mouvement völkisch.
Bien sûr.
Intellectuel élitiste, quoi.
Très aristocratique, en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'ils ne vont pas vraiment réussir à constituer de mouvements de masse. Ça commence, disons, à la fin du 19e siècle, mais encore, c'est un mouvement de masse, mais seulement dans certaines sections de la population. Chez les étudiants, les professeurs, donc quand même malgré tout des gens qui sont marqués par un certain rapport à la théorie et tout. Il va y avoir quelques tentatives, donc il va y avoir le mouvement antisémite en Hesse dans les années 1880, qui va avoir un certain succès auprès des paysans. Mais
beaucoup de mouvements étudiants, oui, il y a les Bund, ouais, c'est genre les associations étudiantines.
Il y a le mouvement de jeunesse qui est très important.
Et eux, ils déclarent déjà en 1900 très fièrement qu'ils sont libérés des juifs en leur sein et tout ça, quoi. Donc dans ce genre d'organisation, c'est assez important, quoi, déjà.
C'est vrai que si on suit ce que dit Mauss, il y aurait d'abord une production intellectuelle principalement diffusée par le biais de la littérature et de journaux, mais qui ne sont pas encore très massifs. Ensuite, il y aurait ce qu'il appelle une institutionnalisation de l'idéologie, donc à partir de... Bon, globalement, durant le Deuxième Reich, du coup, de 1871 à 1918, où l'idéologie völkisch va se transmettre massivement par le biais de l'école, en fait, et de l'université. Beaucoup de professeurs, d'étudiants, lui discutent justement du fait que, par rapport à la France, il y a une grosse différence dans l'orientation idéologique des étudiants et des professeurs. Parce que les professeurs en France sont plutôt républicains, quand même. De facto, c'est des agents de la républicanisation de la société. La République est en conflit avec l'Église, notamment sur cette question-là. Donc on va dire qu'ils sont globalement plutôt radicaux, quoi. Enfin, radicaux au sens... voilà, ils sont centristes, républicains, un peu anticléricaux et tout ça. Et les étudiants... Alors les étudiants, bon, il faut... Je pense que Mauss exagère un petit peu, il y a quand même un fort milieu étudiantin d'extrême droite. L'Action française recrute massivement dans les milieux étudiants. Les étudiants dans les années 1930 sont des fervents acteurs de l'antisémitisme, de la xénophobie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'étudiants aussi qui sont attirés par les idées de gauche, les idées anarchistes. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, effectivement, on peut dire qu'il y a un peu plus d'étudiants quand même qui sont voilà, très portés vers voilà, une espèce d'exaltation nationaliste. Et là, je pense qu'il faut revenir à quelque chose dont on n'a pas tellement parlé, c'est que l'idéologie völkisch, au début, c'est une révolte contre la modernité, d'une certaine manière. Alors, ça ne veut pas dire que quand le nazisme arrive au pouvoir, ça va être le retour à la terre, la désindustrialisation et la sortie du capitalisme. Pas du tout. Mais au début, en tant qu'idéologie qui n'a pas pour l'instant de portée pratique, il va y avoir une révolte contre ce qui, finalement, altère la nation allemande, perçue comme une communauté mystique, cosmologique, avec une nature particulière. Et donc, ce qui altère cette nation allemande, c'est d'une part l'absence d'unification politique jusqu'au 1871, donc voilà, c'est la faute au congrès de Vienne, aux Français, etc., etc. Mais c'est aussi des bouleversements socio-économiques qui se mettent en place progressivement et puis qui vont connaître une accélération au cours du Deuxième Reich.
Mais qui est très tardive en Allemagne comparée à la France ou à l'Angleterre où ces mêmes bouleversements ont déjà eu lieu avant. Et comme ça se concentre sur une période plus courte historiquement, ben du coup, c'est pas seulement perçu, c'est en réalité des bouleversements qui se font très rapidement. C'est-à-dire d'une génération à d'autre, ou dans une génération, des pertes d'emploi, des restructurations économiques qui sont très douloureuses, mais qui sont très ramassées dans le temps. C'est une espèce de modernisation rapide quoi, que l'Allemagne va subir, quoi. Et ça, c'est un terrain propice à projeter les fautes de cette modernisation sur une partie de la population. Et c'est ça qu'on va trouver très fortement dans l'antisémitisme. Ça va être la modernisation rapide, ça va être la faute aux juifs, quoi, grosso modo, ou à la finance.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, la modernisation allemande, elle se fait plus rapidement qu'en France et qu'en Angleterre, la restructuration des campagnes particulièrement, parce que la restructuration des campagnes en Angleterre, elle se fait très tôt, donc c'est un processus un peu plus long qui commence voilà, déjà à la fin du XIVe siècle et qui s'étale jusqu'au XVIIIe. En France, finalement, les paysans vont réussir à garder la terre jusque assez tard, en fait, jusque tout le long du XIXe siècle. Donc bien sûr qu'il va y avoir des moments de durcissement, des antagonismes dans les campagnes en France. Mais ça va se faire par à-coup, dans certains secteurs, et jamais de manière généralisée, alors que effectivement, la paysannerie va être durement touchée en Allemagne par cette modernisation accélérée des structures, ce qui va faire qu'un mouvement comme celui en Hesse dans les années 1880 va s'adresser massivement à la paysannerie en disant que la cause de leur déboire, c'est la modernité, et c'est la modernité portée par les Juifs. Et ce qui va faire que cette idéologie va prendre relativement, c'est qu'effectivement, la figure qui fait l'interface avec le capitalisme du point de vue des paysans, ce sont donc les intermédiaires, ceux qui achètent les légumes, qui achètent les productions aux paysans, effectivement, ils sont en partie juifs. Et donc, d'une certaine manière, cette figure qui est seulement un des maillages et une personnification du processus de modernisation et de ses ravages, va finir par concentrer tous les ravages de la modernité, on va les assimiler aussi à l'industrie au début, ça va changer. Après,
pour l'intermédiaire dans les régions rurales, il faut aussi rappeler qu'il y a des faits historiques, il y a des raisons historiques tout à fait simples à ça, c'est que les Juifs étaient interdits de posséder de la terre pendant très longtemps. Donc, par exemple, oui, dans les régions rurales en Allemagne, les Juifs vont se trouver dans les positions de commerce, de maquignons, de commerce de bestiaux, et les paysans qui ont la terre, ça va être les Allemands. Et du coup, effectivement, les restructurations qui vont avec des baisses de prix, avec des difficultés économiques de survie, ben, ça va se focaliser sur le commerçant, qui était effectivement souvent juif.
Oui, ça, je pense que c'est intéressant de rappeler effectivement que même quand on peut voir effectivement des racines matérielles dans l'antisémitisme, en fait, ces racines matérielles, elles sont liées elles-mêmes à l'histoire de l'antisémitisme, en fait. Et qu'effectivement... l'antisémitisme va exclure en Europe de manière généralisée les juifs de la paysannerie. Et après, c'est une exclusion qui ensuite est plus ou moins large en fonction de l'ampleur du processus d'émancipation des Juifs qui va avoir lieu à partir de 1789. Et en Allemagne, c'est vrai que cette émancipation des Juifs, il faut quand même en toucher un mot, elle se fait principalement quand même seulement à partir de 1848, donc beaucoup plus tard qu'en France, où elle a lieu en 1789. Elle ne se fait pas de manière corrélative à l'unification politique, ce qui fait que en France, comment dire, la naissance de la nation française avec 1789 ne se fait pas en même temps que l'émancipation des Juifs, donc les Juifs sont encore moins assimilés d'une certaine manière à la nation allemande, mais sont vus comme, encore plus qu'en France, comme, même si en France il va y avoir ensuite des évolutions, et il faut quand même rappeler qu'en France, par exemple, au moment de la crise de des années 1840, il y a quand même aussi une identification des Juifs à l'émergence du capitalisme. Par exemple, chez Toussnel, qui crée un livre en 1844 qui s'appelle « Les Juifs rois de l'époque », où qu'on retrouve aussi une idée chez Proudhon, où les Juifs sont assimilés à la finance, à l'industrie, à la circulation, et même au début à l'industrie. Après, ça change très vite quand même sur l'industrie, mais le mouvement Wolkisch, au début, est même opposé à l'industrie, en fait. C'est une opposition radicale à la modernité qui va se changer en une opposition contre ce qui ne serait pas allemand dans la modernité, parce que l'industrie va finir par être considérée comme étant potentiellement bénéfique pour la nation allemande, donc exemptée, disons, de la critique Wolkisch.
Et puis, sur l'antisémitisme, il faut quand même aussi dire deux mots sur l'antijudaïsme en Allemagne, sur de l'Église, de Luther, qui, en 1530, va dire qu'il faut brûler les synagogues, qu'il faut très virulemment antijudaïque. Et même avant ça, dans les croisades, il y a eu des pogroms dans des villes comme Worms ou dans d'autres villes. Tout ça, c'est basé quand même sur une histoire assez longue aussi, quoi. Même si on sépare entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme, qu'on va dater genre à la deuxième moitié du 19e. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui vont être fondées sur autre chose, quoi. L'antisémitisme n'est plus fondé sur la même chose que l'antijudaïsme. Mais en même temps, dans l'assignation des rôles, il y a aussi des continuités. Voilà, comme on disait, il y a une raison pourquoi les Juifs ne possèdent pas de la terre en Allemagne. C'est parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en posséder. Donc, ils se trouvent dans le commerce. Ils n'avaient pas le droit de faire certains travaux. Donc, ils se trouvent dans les autres.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, cette histoire longue, d'une certaine manière, de l'antijudaïsme va aboutir au fait que les Juifs vont se retrouver dans les professions qui vont, à part pour certaines, émerger en fait avec la modernité. C'est-à-dire tous les milieux de la culture, le journalisme, la littérature, la finance, mais là c'est lié au fait que les Juifs ont été cantonnés historiquement à l'usure, parce qu'en fait la société chrétienne n'assumait pas en fait le prêt à intérêt, donc il y avait une partie des Juifs ou des étrangers parfois qui se chargeaient de ces prêts à intérêt. Et c'est sûr que ça va jouer un rôle important dans la structuration de l'antisémitisme moderne, dans tous les pays d'ailleurs, dans tous les pays. Et ça va faire que, effectivement, certaines catégories de la population vont être plus réceptives que d'autres à un discours antisémite. Donc les paysans qui ont affaire, disons, à des intermédiaires qui sont juifs, mais aussi beaucoup, et c'est là où l'idéologie Wolkisch va particulièrement prendre, c'est dans la petite bourgeoisie, où là, effectivement, la petite bourgeoisie allemande se sent concurrencée par la petite bourgeoisie juive, en plus avec des opinions politiques divergentes, c'est-à-dire que les juifs sont souvent associés aux libéraux, puis aux socialistes, alors que une partie de la petite bourgeoisie allemande est plutôt conservatrice, un motif encore supplémentaire, donc à la concurrence pour les postes, la lutte des places, et puis un antagonisme politique, et puis après également dans la grande bourgeoisie, où là il peut y avoir aussi un antagonisme entre les capitalistes protestants et les capitalistes juifs. Donc l'antisémitisme a moins pris dans les milieux ouvriers, parce que l'idéologie Wolkisch, qui était porteuse de cet antisémitisme, n'avait pas grand-chose à offrir aux ouvriers. C'est-à-dire qu'il leur promettait qu'on allait retourner au Moyen-Âge avec les corporations d'artisans et tout, mais les ouvriers d'industrie, je pense qu'ils ne voyaient pas vraiment d'émancipation là-dedans, le retour à la terre non plus, le fait qu'on s'en prenne aux intermédiaires juifs, à la finance, c'est abstrait quand même. Donc il faut attendre, je pense, j'ai l'impression, des périodes de crise exceptionnelle, notamment financière, pour que là, les ouvriers commencent à être touchés un petit peu par un discours antisémite et Wolkisch de manière plus importante, quoi. Bon, après, ce qui est intéressant, sur les évolutions de l'idéologie Wolkisch, il faut quand même en dire un mot. Donc il y a quand même le passage d'une antimodernité radicale à une antimodernité sélective, qui va devenir en fait une antimodernité qui va s'attaquer non pas au cœur du capitalisme, donc la production de marchandises, de valeurs, d'argent, de profits, etc., mais plutôt à ce que parfois les marxistes ont appelé une espèce de superstructure, alors soit des superstructures idéologiques, entre guillemets, le libéralisme, le socialisme, le pacifisme, l'internationalisme, etc., etc., qui soi-disant seraient caractéristiques de la modernité, le cosmopolitisme notamment. Bon, beaucoup d'idéologies qu'on voit qui sont associées aux juifs, en fait. Et puis, d'autre part, à, entre guillemets, des superstructures financières. Voilà, la finance, le prêt, la banque, qui là, encore une fois, sont associés aux juifs. Et alors, il y a des raisons, je pense, bassement financières à ça, c'est que le mouvement Völkisch, pour être financé, quand il va vouloir se transformer en mouvement de masse, va aller chercher des subsides dans l'industrie allemande, notamment chez Krupp, qui va jouer un rôle très important. Et puis aussi, une raison qui est liée au fait qu'à partir de 1871, et bon, notamment la fondation en 1890 de l'association pan-germaniste, l'idéologie Völkisch va prendre un tournant expansionniste, avec bientôt l'idée du Lebensraum, de la nécessité vitale d'une expansion impérialiste en Europe et dans les colonies. Et évidemment, pour conquérir l'Europe et les colonies, il faut une armée puissante, donc il faut une industrie puissante. Donc, à partir de ce moment-là, l'industrie, si elle sert des buts pan-germanistes, Völkisch, ben effectivement, elle va être acceptée. Et c'est là où on va arriver finalement sur le rapport ambivalent à la modernité des nazis, qui finalement ne condamne de la modernité que principalement la finance associée aux juifs et les idéologies anti-allemandes, entre guillemets, également associées aux juifs.
Bon, je ne sais pas si tu voulais déjà en venir là, mais le mouvement Völkisch, il n'est aussi pas rentré dans son ensemble dans le mouvement nazi. Ça a certes préparé tout le terrain, mais en même temps, effectivement, il y a un côté élitiste dedans, ce qu'il n'y a plus chez les nazis. Il y a des côtés, il y a une partie des mouvements Völkisch qui n'ont pas suivi le nazisme parce qu'ils voulaient rester un mouvement élitiste d'idées, un cercle intellectuel sur la foi germanique et tout ça, mais qui trouvaient que la politique était bassement matérialiste, quoi, qu'il ne fallait pas rentrer dans ce genre de considérations tactiques et politiques. Donc il y avait une partie du mouvement Völkisch qui n'a pas suivi disons, le chemin du NSDAP quoi, ou du nazisme. Mais grosso modo, quand même, les grandes idées de... Et effectivement, aussi par rapport à la modernité. Donc, on va couper la modernité en morceaux et choisir celles qui sont les parties qui sont bonnes, avec une construction idéologique qui tient pas vraiment la route, mais qui était opérante. Parce qu'effectivement, le régime nazi a été un grand, grand, grand régime de modernisation. Autant au niveau de l'État, les congés payés en Allemagne, c'est les nazis qui ont démocratisé d'une certaine manière. Ils ont instauré une dictature aussi, mais ils ont aussi... C'était l'idée de l'accès à la santé, de l'accès aux vacances, des choses qui en France étaient faites sous le Front populaire, étaient faites en Allemagne au même temps par les nazis.
C'est en fait créer une espèce d'État social nationaliste.
Voilà, c'est un État moderne avec le côté d'État-nation, quoi, d'État social. Oui.
Qui sert aussi d'encadrement à la population. Parce ouais, qu'effectivement, et puis il y a l'idée aussi que si les Allemands sont en bonne santé, ça va faire des bons soldats, des bons ouvriers. Et puis effectivement, on leur donne les congés payés, mais on les fait bosser 50 heures par semaine. Donc, et c'est vrai que le nazisme a cherché voilà, à séduire aussi la classe ouvrière à travers ses congés payés, notamment en organisant une espèce de soi-disant de tourisme démocratisé, même si en réalité, les réalités de ce tourisme démocratisé sont...
C'était plus casernisé que démocratisé.
C'est ça.
Si on voit les bâtiments qu'ils ont faits, quoi. Parce qu'il en existe encore des espèces de bars de plusieurs kilomètres de long sur la mer Baltique, quoi, ce qu'on peut aller visiter aujourd'hui comme curiosité, quoi, mais... ressemblait plus à des grosses casernes qu'à des lieux de vacances.
On parlait donc tout à l'heure des transformations de l'idéologie Völkisch. Il faut revenir quand même sur la question du racisme. C'est-à-dire comment est-ce que l'idéologie Völkisch, qui au début se référait quand même à une espèce de communauté mystique, va devenir une communauté raciale, qui est définie donc par des traits particuliers, par voilà, une ascendance héréditaire, par une opposition entre un idéal esthétique... physique arien et un repoussoir esthétique et physique juif avec toute une série d'antinomies, la beauté arienne, la laideur juive, puis après ça va même ça va avec des qualités morales, mais finalement toutes ces qualités morales ne découlent plus d'une espèce de d'âme allemande, mais carrément même d'une biologie allemande. Et ça, c'est sûr que ça joue quand même un rôle, même dans la radicalisation de l'antisémitisme, parce que chez certains penseurs volkisch assez précoces, il y a encore cette idée que bon, certains juifs éventuellement pourraient s'assimiler, pourraient faire partie un petit peu de cette communauté mystique. Et au fur et à mesure du temps, plus ça se racialise et ça se radicalise, plus l'antagonisme entre les juifs et les allemands devient un antagonisme absolu, un antagonisme de valeur, un antagonisme de qualité physique, un antagonisme qui va en fait vers cette idée de guerre des races, de lutte des races, qui est un concept central dans l'idéologie volkisch de la fin du 19e siècle.
La souillure de la race, et ça va se poursuivre dans tous les lois de Nuremberg, dans les lois raciales et tout ça. On trouve ça d'ailleurs aujourd'hui aussi encore dans l'extrême droite identitaire allemande, en tout cas. Il ne faut pas dissoudre la race. Ce qu'ils acceptent fondamentalement pas, c'est le multiculti, l'idée qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse se mélanger.
C'est une forme d'ethno-différentialisme, oui. Qui est effectivement une forme reconfigurée du racisme d'extrême droite. On a connu la même tendance en France avec la nouvelle droite, notamment, qui est plus allée vers cette idée-là qu'il faut pas se mélanger.
Chacun dans sa communauté.
C'est ça.
Ça, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas les mélanger.
C'est ça.
Ça, c'est dans le mouvement d'extrême droite allemande aujourd'hui, il y a très fort.
Là, on parle de l'idéologie volkisch en général, mais il y a plein de raffinements, de différences et tout. Et effectivement, il y a des idéologues volkisch qui sont moins antisémites que d'autres. Il y en a qui sont déjà exterminateurs, d'autres qui sont assimilationnistes. La majorité étant pour une exclusion assez radicale quand même des juifs de la société allemande.
Ouais, c'est des choses qui sont déjà écrites en 1870, en tout cas dans la deuxième moitié du 19e. Des publications qui revendiquent qu'il faut exclure les juifs de l'Allemagne. C'est quand même quelque chose qui se discute déjà, quoi, comme idée. On peut l'écrire et on peut le penser et le dire.
Alors peut-être assez rapidement, il faut dire donc que l'idéologie volkisch va se diffuser massivement dans la société allemande, particulièrement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec cette idée que s'il y a eu une unification politique de l'Allemagne, il n'y a pas eu d'unification culturelle de l'Allemagne. Mmh. Et une unification culturelle qui repose sur une diffusion dans la jeunesse de l'idéologie volkisch, et aussi sur la construction d'un corps étranger, figure étrangère à la nation allemande, qui sont principalement les juifs. Mmh. Et après, globalement, ce qu'on peut dire quand même, rapidement, avant de passer sur la question des racines intellectuelles de Mein Kampf, c'est que, globalement, il va y avoir une première massification d'idéologie volkisch avec la défaite de l'Allemagne. Donc dès 1916, dès que le vent commence à tourner pour l'armée allemande, il va y avoir la création du Parti national de la patrie allemande, qui va devenir le premier parti volkisch de masse, très antisémite, qui va rendre responsables les juifs de la défaite. D'abord des compromissions, des tentatives de paix, et puis ensuite de la défaite allemande. Et il va y avoir aussi, donc dans ce parti, donc le DNVP, une influence de masse. Hein, le parti va quand même atteindre jusqu'à 6 millions d'électeurs. Donc c'est le premier parti volkisch de masse. Et l'ascension du DNVP là, va aussi marquer le ralliement de la droite conservatrice à l'idéologie volkisch. C'est-à-dire que pour la première fois, il va y avoir un parti conservateur de masse qui se rallie massivement à l'idéologie volkisch et qui va se radicaliser tout au long de la période entre 1918 et 1933, qui va devenir de plus en plus antisémite, l'antisémitisme passant de thèmes relativement secondaires et locaux à des thèmes centraux de sa propagande, jusqu'à finalement exclure en fait complètement les juifs du parti. Bon, finalement, c'est un parti qui va se faire doubler en fait par le national-socialisme, mais néanmoins, il faut quand même dire que ce premier parti de masse volkisch, il va avoir un rôle important dans la diffusion de l'idéologie volkisch et il va préparer le terrain idéologiquement au national-socialisme. Donc voilà, on peut voir que au moment où Hitler va commencer à écrire Mein Kampf donc en 1923 en prison après l'échec de son putsch, l'idéologie volkisch antisémite, nationaliste, raciste a déjà pénétré en profondeur une partie importante de la bourgeoisie, de la classe moyenne, de la paysannerie. et ce, avec une accélération à partir de la défaite de l'Allemagne en 1918, qui va favoriser un ressentiment nationaliste extrêmement fort, avec l'idée que c'est un coup de poignard dans le dos qui a été infligé par la République, le libéralisme, les Juifs, etc., à une armée allemande en fait invaincue. Il va y avoir également la menace révolutionnaire, parce qu'il y a quand même une révolution en Allemagne en 1918 avec les Spartakistes, et puis également avec voilà, les conseils ouvriers, et puis la République des conseils de Bavière, donc qui va favoriser la diffusion de l'idéologie Völkisch dans la petite bourgeoisie et la bourgeoisie conservatrice. Il va y avoir également un contexte voilà, qui est propice aussi à des tentatives de prise de pouvoir autoritaire, d'ailleurs le putsch de Kapp en 1920, Kapp qui est très proche de l'idéologie Völkisch, bon, un putsch qui va échouer par une grève générale ouvrière. Enfin, ça montre bien que voilà, l'idéologie Völkisch voilà, commence à avoir un impact politique réel au début des années 1920. Et puis, voilà, ça va évidemment prendre une proportion toujours plus importante au cours des années 20, avec la crise d'hyperinflation de 1923-1924, avec l'occupation de la Ruhr en 1923, qui canalise une haine anti-français, qui se lie aussi à une haine de la République de Weimar, des Juifs, etc. Et on parlera, voilà, dans une deuxième partie de cette émission, voilà, des racines intellectuelles de Mein Kampf, en revenant un petit peu en arrière, et en montrant aussi ce que l'idéologie nationale-socialiste, en tout cas telle qu'elle est formulée par Hitler, aussi par Rosenberg, dont on va parler, ce qu'elle a de différent, de spécifique par rapport à l'idéologie Völkisch, mais aussi évidemment les continuités qu'il y a entre les deux idéologies.
We believe!
Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux racines historiques du national-socialisme. Et nous sommes toujours avec Paul de la Critique de la Valeur, notre invité aujourd'hui, pour parler dans cette deuxième partie d'émission des racines intellectuelles de Mein Kampf à partir du numéro de la revue d'histoire de la Shoah sur le sujet, le numéro 208 qui était paru donc en mars 2018. Donc on va toujours parler de racines intellectuelles, mais on va avancer dans le temps d'une certaine manière, puisqu'on s'était concentré sur la période d'avant 1914 dans la première partie de l'émission. On renvoie également sur toute la contextualisation historique à la première partie. Là, on va vraiment se concentrer vraiment sur Mein Kampf, même si on peut déjà dire un premier mot de Mein Kampf, donc qui est écrit par Hitler en prison entre 1923 et 1924. Ça sort en 1925, puisque Hitler a été emprisonné suite à l'échec d'un putsch en 1923. Un putsch dont l'échec aura une importance cruciale dans l'évolution du parti national-socialiste, puisque c'est l'échec de ce putsch qui va entraîner une modification de la stratégie pour arriver au pouvoir de la part du parti nazi, qui va désormais se consacrer aux élections pour essayer d'arriver au pouvoir, ce qui vont finalement arriver, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, en janvier 1933. Donc, parlons maintenant de ces racines intellectuelles de Mein Kampf en disant une première chose, c'est que l'historiographie ne sait pas non plus de manière exacte quelles sont toutes les références de Hitler, quand est-ce qu'il les a lues.
Il donnait pas ses sources, il citait extrêmement rarement des personnes. Bon, je pense que ça faisait partie de son personnage, il mélangeait un peu tout. Mais là, dans cette revue, ils ont fait un travail qui est en partie un peu fastidieux à lire, puisqu'il s'agit un peu de philologie, de comparer des textes, qu'est-ce qui est, et donc de trouver l'influence des auteurs. Il y en a très très peu qui sont cités nommément. Il y en a un tout petit peu, mais c'est très rare.
C'est principalement, je crois, Feder qui, oui, lui est cité, peut-être Wagner aussi.
Oui, Wagner certainement, mais Wagner c'est un peu plus lointain dans le temps, quoi, déjà aussi, et moins politique, quoi. Ça fait plus partie du soubassement idéologique, quoi. Ce numéro de la revue, elle est séparée en deux parties, comme tu l'as déjà dit. En gros, une première partie qui va traiter des influences jusqu'à la Première Guerre, jusqu'en 14, et ensuite la deuxième partie, des influences qui va intégrer dans l'écriture de Mein Kampf, d'après la défaite, qui est donc effectivement un des événements clés de l'arrivée, de l'ascension du nazisme, et plus tard aussi de l'arrivée au pouvoir. Voilà, il y a quand même deux événements qu'il faut citer si on veut parler de l'arrivée au pouvoir des nazis, c'est donc la défaite de la Première Guerre mondiale, et de leur point de vue, du point de vue des nationalistes allemands, la honte du traité de Versailles, qui va être énormément utilisé politiquement. Et deuxième moment très important pour l'arrivée au pouvoir des nazis, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est la crise de 1929 et l'hyperinflation en Allemagne, quoi. Parce que le parti nazi, avant 1929, il fait très très peu de voix, il va augmenter par 10 à peu près son score entre 1928 et 1932, quoi. 1932, où il va devenir le premier parti. Là, on parle beaucoup des origines intellectuelles de ce mouvement et de l'important, on a parlé tout le début de l'émission, de l'importance du mouvement Völkisch, mais voilà, il y a aussi ces événements historiques spécifiques qui vont amener finalement à la prise du pouvoir du parti nazi, quoi. Donc la première partie jusqu'à 1914, on a pas mal parlé dans le début de l'émission. La grosse influence qu'on va trouver dans Mein Kampf, c'est toute l'idéologie du mouvement Völkisch sur l'invention des peuples indo-européens, indo-germaniques pour les Allemands, mythologie inventée d'une origine unique du peuple. Et ça, c'est des travaux qui ont démarré avec des linguistes, en fait, qui n'étaient pas du tout dans la démarche du national-socialisme, mais qui ont été repris par les nationaux-socialistes pour s'inventer grosso modo une mythologie nationale, qui vont ensuite essayer de définir où est-ce que les Aryens viendraient d'origine, où c'est que les blonds aux yeux bleus, les grands types, qui ne correspondent pas du tout ni à Hitler, ni à Goebbels, ni aux autres, mais d'où ils viendraient. Et, grosso modo, ils vont décider qu'ils viendraient du nord de l'Europe.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans la première partie de l'émission, mais je trouve qu'un élément assez intéressant de l'idéologie Völkisch, qui va être repris ensuite par les nationaux-socialistes, c'est cette idée, finalement, que tout ce qui était de grand dans l'humanité, c'est allemand, en fait. Donc, par exemple, ils vont dire que les Grecs étaient des Germains, ce qui est quand même un petit peu étrange.
et que en fait tout ce qui avait de grand dans, même dans la culture romaine était en fait germain, et que les germains sont arrivés au 4e, 5e siècle pour sauver l'humanité de la décadence romaine. Donc on voit que il y a aussi voilà ce mythe donc voilà d'un peuple originaire qui de tout temps sauver l'humanité, et évidemment ça fait penser aussi à la dimension un peu messianique du national-socialisme et à la notion de Saul Freelander, de voilà d'antisémitisme rédempteur, que finalement il y aurait un destin du peuple aryen depuis ses origines, voilà, qui aurait créé la culture humaine romaine grec, qui aurait sauvé l'humanité de la décadence romaine et qui reviendrait enfin au XXe siècle pour sauver l'humanité de la domination juive.
Je pense qu'il y a quelque chose de juste dans ce concept, hein. Il y a de Friedlander sur l'antisémitisme rédempteur, il y a effectivement, parce qu'on le voit plus tard dans le cours de la guerre, hein, on pourrait dire dans la Seconde Guerre, qui avait l'objectif de gagner de la guerre et de dominer l'Europe et le monde, mais que l'autre objectif était de détruire les juifs d'Europe. Et qu'on voit très clairement dans la deuxième phase de la guerre que c'est le deuxième objectif qui va prendre le dessus. Et Hitler, il va dire, même si je n'ai pas gagné la guerre, au moins j'ai libéré l'humanité de ce fardeau du peuple juif.
Oui, ça, je pense que c'est intéressant, bon, même si on ne va pas revenir trop là-dessus, puisqu'on a déjà consacré une émission à ce sujet avec toi. Mais c'est vrai qu'on voit bien que, même si cette émission peut paraître très idéologique, que s'il y a bien un mouvement politique où l'idéologie a quand même eu une importance cruciale, c'est bien le national-socialisme. Et que une analyse matérialiste du national-socialisme est tout à fait possible, souhaitable et, à mon avis, très intéressante. Mais que, malgré tout, c'est sans doute un mouvement où l'étude de l'idéologie a quand même un intérêt voilà, très fort et qu'on n'est pas dans un opportunisme pur. Et on le voit bien, d'ailleurs, à la fin de la guerre, où finalement, voilà, c'est l'idéologie qui prend le pas sur le reste, en fait, sur toute forme de rationalité, ce qui fait que effectivement, l'Allemagne, plutôt que d'essayer quand même de gagner la guerre, va en fait, voilà, s'acharner à essayer de détruire tous les Juifs d'Europe, quoi.
Ouais, puis avec ce point-là, on peut aussi se distancer des approches qui existaient dans les années 70, par exemple, dans l'ultra-gauche, en partie aussi, d'expliquer l'extermination des Juifs par des motifs utilitaristes, matériels et de profit. Évidemment, qu'on ne va pas nier que ça a existé et qu'on a tiré profit de l'expropriation des Juifs, mais clairement, on ne peut pas inscrire la destruction des Juifs d'Europe dans un but de gain tactique et de matériel, quoi.
Non, c'est clair.
Donc pour revenir un peu sur les influences, donc voilà, le mouvement Völkisch, on en a parlé assez longuement, donc ça, évidemment, c'est l'arrière-fond de la pensée de Hitler, le Blut und Boden, le sang et la terre. Et il y a une influence qu'on a assez peu parlé, c'est celle de Wagner et ce qu'il faut appeler un peu plus généralement le cercle de Bayreuth, dont Wagner, il travaillait à Bayreuth. Et là, il y avait toute une série d'intellectuels, dont notamment Chamberlain, qui est d'origine anglaise, mais qui a vécu en France et ensuite en Allemagne, qui, lui, vraiment développe une pensée völkisch, antisémite, raciale, d'hygiène raciale très virulente. Wagner lui-même aussi, on peut dire qu'il, d'une certaine manière, il a écrit plusieurs textes très fortement antisémites, dont un sur l'influence juive dans la culture, et qui est un pamphlet antisémite sur l'influence juive, dans lesquels il prend clairement position que le juif ne peut finalement pas s'intégrer à l'Allemagne, ce n'est pas possible, quoi, qu'il reste quand même un corps étranger.
C'est important, effectivement, d'avoir rappelé l'importance de Chamberlain, parce qu'effectivement, c'est, malgré le fait qu'il soit anglais, c'est un des penseurs majeurs de l'idéologie völkisch, sans doute une des références principales de l'idéologie national-socialiste, avec un penchant, effectivement, racialiste extrêmement fort, l'idée de la lutte des races, et aussi, par contraste, par exemple, avec Gobineau, qui était beaucoup sur un pessimisme racial, c'est-à-dire les races vont se mélanger, elles sont déjà altérées, tout est fini. Lui, au contraire, il a plutôt une espèce d'optimisme racial, où il pense que, non, les Aryens vont réussir à se débarrasser du métissage, et vont, à travers la lutte des races contre le juif, sauver l'humanité, la culture, etc. Des idées qu'on retrouve dans le chapitre Peuple et race de Mein Kampf, où on retrouve un peu les principales idées de Chamberlain, mais plus largement de l'idéologie volkish. Donc il y a l'idée qu'il va y avoir une dégénérescence de la race par métissage, et donc il faut un programme de pureté raciale, et il faut un État germanique qui lutte pour cette pureté raciale, parce que sinon, il va y avoir une dégénérescence de la race. Alors, le rapport à Darwin est un petit peu compliqué des nazis, hein, il faut quand même le dire. Ce que j'allais dire, il y a une forme de darwinisme racial, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que par exemple, les nazis réfutent l'idée d'évolution, pour une raison très simple, c'est que s'il y a une évolution, ça veut dire que la race aryenne n'a pas toujours été identique à elle-même. Et ils reprennent plutôt l'idée seulement de la lutte des races qui n'est pas vraiment présente chez Darwin. Donc, effectivement, encore une fois, on voit que le darwinisme n'est pas forcément identique à la pensée de Darwin, mais chez les nazis, c'est particulièrement vrai, quoi.
Oui, et l'Allemagne, par exemple, a créé en 1923 la première chaire d'hygiène raciale à l'université, la première chaire qui va exister en Europe. Donc, c'est une pensée quand même qui dépasse le cercle de quelques penseurs völkisch, quoi. C'est quand même dans l'air du temps assez fortement. Et effectivement, l'influence aussi d'auteurs français comme Gobineau, elle est assez importante dans la pensée de Hitler, de Mein Kampf. Mais à cette différence près que tu disais que Gobineau, c'est plus un pessimisme, un constat d'échec, un constat de décadence, alors que chez Hitler, ça va plus être une volonté de combat, quoi.
Ouais, de rédemption par le combat. Ouais. Et rapidement, pour finir sur ce chapitre Peuple et race de Hitler, on peut dire encore quelques éléments. Il y a évidemment toutes les métaphores hygiénistes, hein, c'est-à-dire où les juifs sont présentés comme une épidémie, un ferment bactériologique. Il y a toute une métaphore médicale qui est très importante, je pense. Et c'est là où on voit finalement que les nazis piochent dans toutes les idéologies scientifiques qui se développent à cette époque, les idéologies biologiques, les idéologies médicales, hygiénistes, etc., etc., qui là est déjà présent dans la pensée volkisch, mais qui, je trouve, dans le national-socialisme, pourquoi même une ampleur encore plus forte, bon déjà qui est liée aussi au fait que ces métaphores médicales, elles s'imposent un peu plus tard que le début de la pensée volkisch, qui est moins marqué par ces métaphores, même si on en trouve de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire. Et après, peut-être autre chose, Hitler est quand même beaucoup influencé par un penseur qui s'appelle Eckhart, qui va devenir en 1921 le rédacteur du Volkischer Beobachter, qui est l'organe de presse du parti nazi, et qui va écrire un ouvrage dont je trouve le titre quand même un peu drôle, d'une certaine manière, qui s'appelle « Le bolchevisme de Moïse à Lénine ». On voit pas trop en quoi Moïse était bolchevique, mais... Et donc, où il y a vraiment cette idée un peu d'association judéo-bolchevique avec un pendant où il y a une association entre les juifs et les capitalistes. Donc évidemment, si on s'inscrit en faux contre la thèse de Nolte, comme quoi le national-socialisme serait uniquement une réaction face à la montée du bolchevisme et de la révolution, même si c'est lié en partie à ça, mais pas que, puisque... c'est aussi une réaction plus générale à la modernité, au libéralisme.
Et puis un des grands thèmes récurrents dans Mein Kampf de la part de Hitler, c'est le combat contre les Mischling, contre tout ce qui est mélangé. Donc le mélange de races, ça c'est vraiment... il va dire par exemple que pour lui, c'est vraiment le mélange des races, c'est le péché originel. Le péché contre le sang et la race, c'est le péché originel de ce monde et marque la fin d'une humanité qui s'y adonne. Il y a aussi des côtés assez intéressants sur la religion. Parce que Hitler, effectivement, on sait qu'ils ont toujours eu, les nazis ont eu des rapports très ambivalents à l'Église. Il y a eu des moments où ils se trouvaient en opposition à l'Église catholique, par exemple au moment de l'extermination des handicapés, qui était le précurseur de l'extermination des Juifs. Là, par exemple, l'Église catholique a protesté sur le principe de la défense de la vie allemande, quoi. Donc il y a eu des moments de conflit contre l'Église, mais en même temps, Hitler est lui-même quand même assez croyant. Par exemple, il va dire « En me défendant contre le juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur », phrase sortie de Mein Kampf, donc quand même une vision du monde religieux. Même si ensuite, ils vont dans le mouvement nazi, il va avoir aussi différentes tendances. Il va avoir des tendances qui vont plus chercher du côté des religions païennes, pan-germanistes et pré-chrétiennes, en considérant aussi que la pensée chrétienne est déjà souillé par la pensée juive, quoi.
Ouais, ça, effectivement, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que effectivement, on pourrait avoir l'impression que le mouvement nazi est uniquement un mouvement païen, alors qu'en fait, il y a eu même dans l'idéologie Völkisch des penseurs qui essayaient de se réapproprier d'une certaine manière l'héritage chrétien, soit en mettant en avant beaucoup le protestantisme, parce que le protestantisme, bon voilà, c'est Luther, et comme on l'a dit à la première partie de l'émission, Luther était un antisémite virulent, et d'autre part, que Dieu pourrait être une figure aussi germanique, qu'il fallait pas forcément le laisser voilà, au monothéisme, mais que finalement on pourrait presque y avoir une espèce de monothéisme arien. Voilà, mais effectivement, il y a toute une ambiguïté du mouvement national-socialiste par rapport à ça, qui va jamais être tranchée, ce qui permet aussi un certain opportunisme, finalement. Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup, c'est un mouvement païen, mais si c'était un mouvement païen qui avait été trop revendiqué, il n'y aurait pas eu un vote massif de la part des protestants, et un vote quand même relativement important des catholiques pour le national-socialisme. Donc les nazis ont toujours réussi à jouer d'ambiguïté, ils ont toujours eu un discours antisémite, qui a de ça d'intéressant, entre guillemets, qu'ils cherchent à jouer sur tous les leviers de l'antisémitisme. Par exemple, ça c'est quelque chose quand même d'assez stupéfiant, il y a quand même eu des discours nazis qui disaient que le Christ était le premier antisémite. On voit quand même l'opportunisme total. Finalement, les nazis vont quand même réussir à incorporer le christianisme par le biais en fait de l'antijudaïsme chrétien en fait. Mmh.
Et une autre permanence dans les discours de Hitler dans Mein Kampf qu'on trouve au niveau du langage, c'est la comparaison avec le monde animal, quoi. Donc, quand il va dire que les rats, ils vivent sur les ordures, les cafards, et tout ça, ça va toujours être comparé aux juifs. Donc, la projection du juif comme nuisance, ça va être une permanence qui va traverser tout Mein Kampf, mais aussi ses discours plus tard, quoi. L'usage extrêmement prolifique de comparaison avec le règne de la nature. D'un côté, pour parler de la société, voilà, beaucoup de métaphores, quoi. Comme quoi il faut couper la branche pourrie de l'arbre, ou alors parler des juifs comme des cafards, parler les rats qui vont grouiller quand il y en a trop, ils vont mourir parce qu'il y en a trop, etc.
Oui, et par rapport à ça, c'est important de dire qu'on va chercher dans la nature un ordre racial qui serait voilà, supposément naturel, et en même temps c'est quelque chose qu'on a oublié de dire dans la première partie de l'émission, mais toute l'idéologie Völkisch cherche aussi à naturaliser un certain ordre social, donc pas l'ordre social moderne qui pour eux est un ordre social pas naturel, mais ils vont chercher plutôt dans le Moyen-Âge par exemple un ordre social naturel avec voilà, un idéal des corporations. Pour eux, finalement, la petite ville avec les artisans, les maîtres, les compagnons, les apprentis, les paysans, et à la limite, voilà, les classes moyennes, type médecins et tout, font partie finalement d'un ordre naturel hiérarchique. On voit déjà au niveau des artisans, où c'est le maître qui domine le compagnon et l'apprenti qui voilà, est dans une situation de subordination complète. Et puis, le tout coiffé d'une aristocratie qui est évidemment révérée par les idéologues Völkisch qui se voient eux-mêmes comme une aristocratie. Mais d'ailleurs, les nazis aussi se voient comme une aristocratie, sauf que la différence, c'est qu'ils pensent qu'il faut quand même que ça devienne un mouvement de masse. Donc finalement, que certes, ils sont des aristocrates, mais qu'il faut quand même qu'il y ait une adhésion massive de la population à leur mouvement aristocratique qui finalement s'élargit, puisque finalement les SS sont censés être des aristocrates, mais finalement ça s'élargit à une part relativement importante de la population arienne.
Et pour revenir un moment sur la religion, aussi Hitler il va affirmer dans Mein Kampf que les juifs constituent une race, c'est pas une religion. Il va leur dénier la religiosité, et en ça donc il faut aussi le voir comme son idéologie antisémite et pas anti-judaïque. Pour lui, l'argument va être que les juifs, par nature, sont matérialistes. Du coup, ils ne peuvent pas avoir une pensée de l'au-delà, ils ne peuvent pas avoir une pensée transcendante, et ils peuvent uniquement être dans le matérialisme et dans le gain quotidien.
Ouais, ça c'est important parce que c'est déjà quelque chose qu'on retrouvait dans l'idéologie Völkisch. L'opposition entre l'arien spirituel, mystique, en communion avec la nature, idéaliste, mais là pour le coup un concept qui est pensé positivement, par opposition aux juifs matérialistes, donc pas matérialistes au sens de Marx évidemment, mais au sens de préoccuper uniquement par, c'est ce que dit Mauss, par le pouvoir et l'accaparement des richesses. une lutte très basse, contrairement aux nobles idéaux de l'Aryan.
Donc voilà, après, si on veut venir sur les d'autres influences sur Mein Kampf, on va parler d'après la guerre de 14-18. Et là, forcément, il y a plus le côté d'anticommunisme qui va rentrer dedans et qui va être assimilé à la juiverie. On va traiter tous les bolcheviques. C'est là qu'on va développer le thème du judéo-bolchevisme. Bon, on verra plus tard les caricatures nazies qui vont montrer les juifs tirer les ficelles à Moscou et à Washington. En fait, les juifs tirent partout les ficelles. Et un des promoteurs, un de ceux qui a beaucoup poussé ce discours, c'est Alfred Rosenberg, qui est devenu un idéologue important du parti nazi, qui lui-même venait des pays baltes et qui, en 1918, a fui et est arrivé à Munich dans ce milieu nationaliste extrême et a eu pas mal d'influence sur Hitler et sur le parti nazi pour en faire vraiment le cheval de bataille du nazisme, de la lutte contre le judéo-bolchevisme.
Oui, qui est aussi un motif peut-être qui a été beaucoup mis en avant, notamment pour s'attirer les faveurs du patronat, parce qu'évidemment, bon, un discours contre la modernité, contre le libéralisme, bon, le patronat il est peut-être moins réceptif.
Ça, c'est certainement beaucoup dans l'époque de Weimar.
Et d'ailleurs, dans le livre d'Éric Vuillard, qui est consacré justement au nazisme, où est mis en scène une réunion en février 1933 entre 24 grands patrons d'industrie et de la banque allemande, et Göring et Hitler, le thème principal de l'appel à ce que ces manias de l'industrie et de la banque donnent de l'argent au parti nazi, c'est parce qu'ils sont le rempart contre le bolchevisme, qui est une idéologie sincère, puisque évidemment, c'est ce qui va motiver l'invasion de l'URSS en 1941, et l'association entre les juifs et les bolcheviks va faire aussi que l'ordre d'extermination des commissaires politiques assimilés aux juifs va être une étape importante dans la destruction, dans l'extermination des juifs.
Oui, parce que cette premier ordre, il ne va pas s'appeler d'exterminer tous les juifs, il va s'appeler d'exterminer les commissaires politiques. Mais comme on dit que tous les commissaires politiques sont juifs, on commence à faire une espèce d'amalgame, mais c'est effectivement le début de l'extermination systématique, quoi. Et donc dans cette même période aussi devient très très important, c'est les protocoles de sages de Sion. C'est un faux historique qui a été fabriqué par les services tsaristes russes, qui met en scène une réunion donc des sages de Sion, donc des juifs qui se mettent ensemble pour discuter comment ils vont dominer le monde, dans un style très calculateur et très politique, comment on va avancer nos pions pour dominer la planète. Bon, ça a été reconnu assez tôt comme un faux, puisque c'est un plagiat d'un autre texte, mais malgré ça, ça gardait à l'époque et jusqu'à aujourd'hui une large diffusion et une importance. Par exemple, quelqu'un comme Goebbels, il va dire oui, on ne sait pas si c'est un faux ou pas, mais finalement c'est pas important parce que ce qui est décrit est juste. Mais c'est devenu vraiment un motif extrêmement important dans l'idéologie nazie et ensuite aussi ailleurs sur la planète, aujourd'hui encore. Par exemple, la télévision égyptienne en a fait un feuilleton télévisé dans les années 2000 à partir des protocoles de sages de Sion, c'est quelque chose qui trouve encore aujourd'hui une large diffusion, alors qu'on sait d'où ça vient.
Oui, ça c'est important parce que finalement c'est le couronnement du conspirationnisme antisémite, c'est-à-dire voilà l'idée que derrière tous les événements mauvais du monde, les guerres, les crises, les famines, tout ce qui soi-disant nuit à la nation allemande, notamment, il y a la main des juifs, de la conspiration juive, et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà, en fait, chez certains idéologues völkisch, qui est lié aussi à cette idée que les juifs voudraient s'assurer la domination mondiale.
Et ça a connu une diffusion, après ce qui est horrible, c'est que ça connaît encore aujourd'hui une diffusion très large. Par exemple, en 1920, c'est Henry Ford qui va largement favoriser la diffusion des protocoles de sages de Sion aux États-Unis. Selon lui, c'est quelque chose qui fournirait une bonne grille de lecture pour comprendre la révolution russe, qui est évidemment l'ennemi principal. Donc ça va être diffusé largement aux États-Unis, ça va être diffusé très largement en Allemagne, et cette pensée conspirationniste, elle est très largement reprise dans Mein Kampf.
Ouais, et justement, puisqu'on parlait de Henry Ford, il faut quand même dire quelque chose d'Henry Ford, parce que c'est quand même effectivement fascinant que le plus grand capitaliste industriel américain soit un des principaux promoteurs mondiaux de l'antisémitisme. Il va recevoir en 1938 la plus haute distinction du Troisième Reich de la part du consul allemand de Détroit. Et principalement pour sa diffusion d'un message antisémite, notamment à travers un journal qui publie Le Juif International, je crois, et qui diffuse une propagande antisémite qui assimile la banque, la finance, la réserve fédérale américaine, enfin, tout ce qui n'est pas finalement l'industrie et l'agriculture à un complot juif. Ça peut trouver évidemment ses origines dans le fait qu'il est lui-même un capitaliste industriel qui est opposé en tant que capitaliste industriel aux intérêts des banques qui lui prêtent de l'argent. Mais bon, évidemment, il n'y a pas que ça. C'est vraiment un antisémitisme virulent.
Ouais, je pense que l'exemple de Ford, il est intéressant pour montrer ce que nous on appelle de l'anticapitalisme tronqué. Les nazis se considèrent comme anticapitalistes. Ils vont tenir un discours anticapitaliste alors qu'ils vont moderniser l'industrie. Krupp, Thyssen, IG Farben, c'est des énormes complexes industriels. Ford se disait lui-même anticapitaliste et ça paraît évidemment totalement incroyable. Mais après, il va l'expliquer parce qu'il va dire « Moi, je fais travailler des gens. Moi, dans mes usines, je donne du travail à des gens et ils sont salariés pour ça. Donc moi, je suis un honnête homme. Les capitalistes, c'est les banquiers juifs à Wall Street. Le slogan, un des gros slogans des nazis, c'était le schaffendes Kapital gegen raffendes Kapital. Le capital qui travaille contre le capital usurier, parce qu'on a parlé un peu de ça dans la première partie de l'émission, comment les nazis ils ont positivé l'industrie, alors que d'origine le mouvement Völkisch était plutôt anti-industriel. On voit comment s'opère ce changement à travers, on coupe le capitalisme en deux, entre d'un côté la production et de l'autre côté le monde de la finance, en faisant comme si c'était deux choses séparées. Et Ford, il va aller aussi loin de dire, il y en a un, c'est même pas du capitalisme, il y a que l'autre qui est du capitalisme. L'un, c'est le travail et l'usine. Et l'autre, c'est la finance, c'est le capitalisme. Voilà, c'est vraiment un exemple assez marquant de ce qu'on peut appeler un anticapitalisme tronqué. Et pour ceux que ça intéresse, pour approfondir cette question, on peut vivement conseiller la lecture de Moïse Postone, qui analyse cette question plus d'un point de vue théorique et qui va essayer de creuser la question comment les nazis ont pu se considérer comme anticapitalistes et quand même favoriser l'industrie.
Oui, non, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puisqu'on parle justement d'anticapitalisme tronqué, il y a également Gottfried Feder qui va exercer une influence assez importante sur Hitler et sur le national-socialisme, avec l'idée de Feder que finalement le problème c'est l'intérêt. Voilà, donc il parle d'esclavage de la dette, d'esclavage de l'intérêt, d'où une certaine obsession de l'extrême droite jusqu'à aujourd'hui sur la question de la dette, bon, qui est évidemment un problème, qui est un vrai problème, mais où finalement l'intérêt serait la seule forme d'exploitation et pas le profit industriel. Le profit industriel n'est plus une forme d'exploitation. Selon Feder, c'est uniquement l'intérêt, l'usure, et évidemment, l'usure historiquement est associée aux Juifs. Donc finalement, ceux qui sont responsables de l'esclavage, de la dette, de l'intérêt, ce sont les Juifs pour Feder. Et on retrouve bien effectivement cette opposition manichéenne entre une bonne industrie capitaliste et une mauvaise finance capitaliste. Même si là-dessus, ce qu'on pourrait nuancer, c'est que finalement, il y a aussi une bonne finance qui finance l'industrie allemande, qui est elle-même allemande et qui œuvre au bien de la nation. Parce que bon, pragmatiquement, il y a quand même besoin de finance dans le capitalisme. Et une mauvaise finance spéculatrice, rapace, cosmopolite, qui est, elle, systématiquement associée aux Juifs.
Oui, c'est Feder qui a vraiment développé pour Hitler, ou donner les impulsions théoriques, aussi en termes de terminologie, de cette idée qu'il y a un bon capital qui est celui qui travaille et un mauvais capital. Et on trouvera aussi des oppositions, soi-disant de gauche, par rapport à ça aussi, avec des gens comme Silvio Gesell qui vont développer tous ces concepts de monnaie fondante, qui lui va se démarquer de l'antisémitisme quand même, mais qui quand même vont un peu dans la même ligne de considérer qu'il y aurait un capitalisme sain si on se débarrasserait de l'usure, quoi.
Oui, alors que évidemment, bon, la finance fait partie du capitalisme et qu'on peut pas en enlever une partie sans tout enlever, quoi.
Ouais, c'est des gens chez qui, par exemple, il n'y a pas de critique du travail en soi, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est une critique qui reste comme on en trouve, par exemple, beaucoup aujourd'hui, qui vont critiquer uniquement le néolibéralisme, mais pas les catégories de base du capitalisme.
Ouais, bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà, donc évidemment, les gens qui sont intéressés par plus de détails, on les invite à lire ce volumineux numéro de la revue d'histoire de la Shoah, Les racines intellectuelles de Mein Kampf, où il y a également d'autres influences qui sont évoquées, dont on n'a pas parlé, celle de Nietzsche notamment. Donc on espère que cette émission vous aura intéressé et on vous invite à écouter en complément notre émission sur la destruction des Juifs d'Europe. Donc merci Paul.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.